L'association Arts et Livres vous présente la fête du livre en Quai de Sorgue.
Interviews et lectures de textes sur Radio Saint-Aff.
La fête du livre en Quai de Sorgue, c'est dimanche. À partir de 10h.
Philippe Salus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le créateur et le gérant des éditions Mare Nostrum, qui se trouve à Perpignan. Et vous serez présent à la fête du livre en Quai de Sorgue à Saint-Affrique dimanche 19 mai. Alors une première question, comment vous est venue l'idée de créer une maison d'édition ?
J'ai toujours eu la passion des livres depuis mon adolescence. J'habitais Paris, j'ai travaillé pour certaines grosses maisons d'édition, pour les éditions du Seuil et les éditions Robert Laffont. Je lisais des manuscrits et je donnais des notes, non, je donnais des fiches de lecture. Et à partir de là, le comité de lecture interne aux deux maisons d'édition décidait de jeter un œil plus approfondi ou moins sur le manuscrit que j'avais lu et décidait de le publier. Bref, et pour moi, c'était assez passionnant, quoi, de côtoyer le monde de l'édition, parce que ça voulait dire aussi parfois côtoyer des auteurs et puis connaître les anecdotes, les petites histoires, etc. Quoi. Moi, ça m'a toujours passionné, tout cela, le monde de la littérature. Ça, c'était dans les années 80, et dans les années 80, ça a été la grande vogue des petites maisons d'édition qui se sont créées en province. Bon, moi, j'étais à Paris et j'avais eu l'idée de monter une revue avec des amis, mais une revue, c'était un tonneau des Danaïdes. Il fallait faire un nouveau numéro après avoir fait un numéro. Donc, c'était toujours remettre l'ouvrage sous le couvert. Et donc, je m'étais dit que monter une maison d'édition, c'était mieux quand même, quoi. C'est une idée qui m'avait séduite, mais je m'étais dit à Paris, c'est impossible de monter une maison d'édition, à part en ayant une colossale fortune ou des mécènes ou je ne sais quoi. Et comme j'arrivais de Perpignan, quoi, je venais de Perpignan, je ne suis pas catalan, mais j'ai passé mon adolescence à Perpignan, et j'ai un certain attachement à cette région. Donc j'avais décidé du jour au lendemain de rentrer à Perpignan comme ça. Et là, bon, je suis devenu correcteur pour le journal local indépendant. Et de suite, je me suis attelé à monter une maison d'édition, et c'était l'époque des premiers conseils régionaux, des premiers centres régionaux des lettres, etc. Et il y avait plus de facilité pour monter une maison d'édition en province qu'à Paris. Et j'ai monté Mare Nostrum comme ça, avec 0 centime d'ailleurs. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et voilà, donc ça fait 22 ans que ça existe. Et après, maintenant, je ne suis plus du tout en association, je suis en SARL, et il y a eu plein de mouvements, quoi, il s'est passé plein de choses depuis 22 ans.
Est-ce que vous avez des salariés, d'autres salariés qui travaillent avec vous ?
Ben non, j'en avais une, mais j'ai dû la licencier l'an dernier parce que ça a été une très mauvaise année, et la crise vraiment touchant vraiment le monde de l'édition depuis quelques années, j'ai dû quitter le local que j'occupais et j'ai dû me séparer de la personne qui travaillait avec moi, voilà.
C'est difficile de vivre de ce métier ?
Oui, oui, c'est très très difficile de vivre de l'édition. Très très difficile. Il faut vraiment avoir une passion chevillée au corps, ne pas avoir de gros besoins et avoir un peu de chance aussi, je pense, quoi. Voilà. Mais avant, j'étais journaliste à l'Indépendant, le journal, le quotidien du pays catalan. Et ça me permettait de combiner les deux activités jusqu'à il y a quelques années. Hein.
Alors, quel type de livre vous publiez ?
J'ai commencé par publier de la littérature internationale, des traductions et nationales. Puis la période s'est durcie, à savoir que la distribution de diffusion pour les petits éditeurs a commencé à avoir de sérieux problèmes. Donc j'ai vu le coup venir qu'il fallait se réorienter sur autre chose. Donc j'ai commencé à faire du régional, mais du régional ouvert, parce que je ne suis pas militant catalaniste. Donc j'ai pris des thèmes propres à la région, mais qui peuvent intéresser le plus grand monde, c'est-à-dire les gens de passage et les gens d'ailleurs. Et puis après, j'ai dû faire ça presque une dizaine d'années, mais bon, j'ai un peu épuisé les sujets, et puis moi-même, je me suis un peu fatigué. Donc j'ai publié il y a aussi quelques années un polar qui se passait à Perpignan sans avoir du tout notion de ce qu'était le polar et le polar régional. Et puis ça a eu un gros succès, donc je me suis réorienté vers le polar régional qui a connu le polar dit catalan et un peu de polar languedocien, un peu de polar rosé noir, c'est-à-dire toulousain. Ça a eu un certain succès, puis tout le monde a fait pareil, parce que le département est quand même petit, mais il y a beaucoup d'éditeurs, donc ça s'est cassé la figure. Donc maintenant, je suis toujours à l'affût de nouvelles thématiques. Et sinon, il y a une douzaine d'années, j'ai commencé à publier des livres sur la retirade d'exode républicain espagnol, et ça a eu un franc succès. Et ça, c'est quelque chose qui ne connaît pas de désaffection pour de multiples raisons, quoi. Notamment parce que les enfants, les petits-enfants des réfugiés qui avaient été parqués sur les plages du Roussillon sont toujours à la recherche de la mémoire, de cette mémoire-là, qui a souvent été tue par leurs parents, du fait que c'était une immense douleur et une immense défaite par rapport à Franco, quoi. Voilà, en quelques mots.
Comment est-ce que vous procédez pour décider de publier un ouvrage ? Vous recevez des manuscrits d'abord ?
Oui, je reçois des manuscrits, bien sûr. J'ai mes goûts personnels, hein, ça. J'ai mes goûts. Donc, il y a des auteurs que je n'aurais pas publiés et qui ont un succès planétaire, hein, mais moi, ça me tombe des mains, quoi. Je veux dire, il y a quand même mes goûts personnels en premier lieu. Et après, il y a une certaine pratique qui est peut-être cavalière, mais la pratique que j'avais quand j'étais lecteur de manuscrits au Seuil et chez Lafon, quoi, surtout au Seuil, en lisant un paragraphe, je sais déjà si ça me tombe des mains ou si ça me tombe pas des mains, parce que une phrase où il y a beaucoup de fautes d'orthographe, une phrase mal ponctuée, une phrase maladroite, redondante, etc. Déjà, la première phrase, à la limite, je sais si ça, j'ai envie de continuer à lire. Et après passer, mettons, la première page et le premier chapitre, ben je sais si ça me prend par la main ou si ça me prend pas par la main et si j'ai envie de le publier ou pas, quoi. Donc avis aux gens qui écrivent et qui n'ont pas encore publié et qui envoient aux éditeurs, vraiment, il faut bien se mettre dans la tête que dès le premier paragraphe, on peut se faire une idée de ce qu'il y a ensuite, quoi. Voilà.
Vous en recevez beaucoup des manuscrits ?
Non, j'en reçois pas beaucoup. Heureusement, parce que j'y réponds quasiment pas, quoi. De fait que c'est souvent, c'est pas des choses très convaincantes et j'ai pas le temps, moi, d'y répondre. Vous voyez que les gros éditeurs ont un service des manuscrits qui est payé pour ça et je sais même plus où ils en sont depuis 25 ans ou 30 ans que je n'ai plus fait ça, mais c'est du boulot, hein, traiter les manuscrits. Donc moi, quand ça ne m'intéresse pas, je n'y réponds pas, quoi. Voilà.
Quel est le travail pour faire connaître les auteurs que vous publiez ?
Ah ben ça, c'est le plus gros problème de la petite édition, c'est déjà avoir une structure de diffusion, c'est-à-dire avoir des représentants qui vont proposer vos livres aux libraires et qui vont passer des commandes auprès des libraires, avoir un circuit de diffusion, de distribution, c'est-à-dire après achalander les libraires, ça encore on peut le faire soi-même, le plus important c'est la diffusion. Après, pouvoir toucher des journalistes qui vont parler de vos livres, et c'est quasiment, maintenant pour moi c'est quasiment infaisable, hein. J'y arrivais il y a 15-20 ans maintenant, je n'y arrive plus, quoi. Les journalistes s'en tapent le coquillard, je pense, à peu près tout. Et je le dis haut et fort. Parce que j'ai publié des livres que je pense qui avaient un intérêt vraiment, qui dépassait vraiment beaucoup de frontières à tout point de vue, et je n'ai pas eu une ligne dans la presse, même s'il y avait des anniversaires, des camps de concentration ou de je ne sais quoi qui tombaient, qui étaient pile poil dans la thématique de mes livres. Donc voilà, donc c'est très difficile de faire connaître un livre au-delà de sa propre région. Et même dans sa propre région, c'est très difficile parfois de toucher les journalistes locaux. Alors voilà. Mais j'arrive quand même à en vendre, et certains en vendent beaucoup. Parce que déjà, bon, tout ce qui est le thème de la retirade, je vous dis, il y a un public là-dessus. Il ne faut pas oublier que c'est la première grande catastrophe humanitaire européenne dont personne ne parle. 500 000 personnes jetées sur les plages en plein hiver durant 3 semaines, quand la frontière a été ouverte. Le gouvernement français a permis l'ouverture de la frontière aux réfugiés qui étaient pourchassés par les franquistes. Donc cet épisode-là, qui est un épisode infiniment dramatique, je vous dis, il y a un public là-dessus, d'autant qu'en Espagne, il déconne à plein tube. Bon, quoi, c'est normal, c'est un gouvernement parti populaire qui est composé d'anciens franquistes. Et quand ils ont condamné le juge Garzón il y a quelques mois, un an et demi, je ne me rappelle plus, juge Garzón qui demandait la réouverture des fosses communes pour que les familles puissent identifier leurs défunts. Quand ils ont condamné le juge Garzón, là, ça a rejeté de l'huile sur le feu, et l'intérêt pour la retirade et pour toute cette période, pour la guerre civile espagnole, n'en a été que plus aigu. Donc, c'est pas en prenant des mesures comme ça qu'on va éteindre les passions, quoi. Donc, je veux dire, en travaillant une thématique comme ça, c'est une thématique c'est des livres qui trouvent leur public tout seul, heureusement pour moi. Et après, je publie toujours des polars sur certains auteurs et sur des auteurs qui ont déjà un public, quoi. Et malheureusement, je me prive un peu, je ne publie quasiment presque plus de littérature, parce que c'est vraiment trop difficile pour un tout petit éditeur de publier de la littérature. Dernièrement, j'ai publié un ouvrage qui, pour moi, c'est un des ouvrages dont je suis le plus fier d'avoir publié, qui s'appelle Impossible Sinaï, qui a été écrit par Max Saab, que publiait avant Gallimard. Gallimard ne publie absolument plus Max Saab. C'est des petits éditeurs comme moi qui le publient. C'est une sorte de testament contre toutes les guerres, et qui met en scène des soldats israéliens et des soldats arabes pendant la guerre des 6 jours. C'est magnifique, ce texte. Je n'ai pas eu une ligne dans la presse, quoi. Et Max Saab, ce n'est pas n'importe qui. Impossible Sinaï, qu'on vient de pas me dire que ce n'est pas d'actualité. Et donc, quand je vois ça, voilà. Hein. Et pour moi, c'est un texte qui est fabuleux, quoi. Qui est vraiment fabuleux. Et qui n'avait jamais été traduit en français, quoi.
Quand vous parlez de traduction, comment ça se passe ? La traduction se fait par qui ? Vous avez des collaborateurs pour ça, ou...
Je travaille avec des traducteurs et... Et voilà, c'est parfois des traducteurs aussi qui me proposent des textes, quoi. Comme par exemple ce texte de Max Saab, c'est un traducteur qui est spécialiste, un professeur d'espagnol de Nanterre, à Paris, qui est spécialiste de Max Saab. J'avais fait un livre avec lui et il avait toute une liste de textes de Max Saab. Et quand il m'a cité les textes qui étaient libres de droit, quoi, qu'on pouvait publier, quand j'ai vu Impossible Sinaï, ça m'a de suite fait tilt, rien qu'avec le titre, c'est un titre qui est très éloquent, je trouve, et voilà, quoi. Donc c'est... Ou alors parfois j'ai des coups de cœur sur des thèmes, ou bien un livre étranger, j'ai publié l'histoire de l'or disparu des républicains espagnols ici à la frontière. Il y a une tonne d'or qui s'est volatilisée au moment du passage des républicains, et c'est un trésor qui est toujours recherché par les chercheurs de trésors, et c'est devenu un mythe, un peu une légende. Et comme une journaliste barcelonaise avait écrit un livre très intéressant dessus, j'ai demandé les droits à son éditeur et je l'ai fait traduire et je le vends, et voilà.
Quel livre est-ce que vous allez présenter à la fête du livre en quête Sorgue ?
Oh bah alors là, j'amène tout mon stock, hein, j'en amène une centaine, hein, donc
d'accord.
à peu près, ou plus de 100 livres. Hein, donc,
on ne va pas tous les passer en revue, mais je ne sais pas, bon là vous avez parlé de ce livre de Max Saab, c'est ça ?
Oui.
Est-ce qu'il y en a d'autres peut-être auxquels vous êtes particulièrement attaché ?
J'ai des polars rock, c'est des petits polars de 100 pages, écrits par des grands noms du polar en France, Jean-Bernard Puy, Thierry Trifo, Laurent Fétis, c'est des petits livres très sympas. J'ai des polars catalans, languedociens, j'ai rien qui se passe dans l'Aveyron. J'ai des livres sur tous les artistes qui sont passés en Catalogne. Donc il y a Salvador Dalí, lui, il habitait à quelques kilomètres de Perpignan. Des livres sur Picasso, des livres sur Matisse, quand Matisse était venu à Collioure, des livres sur Charles Trenet, des choses comme ça.
Qu'est-ce que vous attendez de la fête du livre en quai de Sorgue ?
Bah, j'attends déjà du beau temps. J'espère qu'il fera beau. Puis après, je ne sais pas, il y a des... Parfois, quand je suis invité, bah, je ne sors pas assez du département. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis inscrit. Dans les fêtes du livre, il y a des rencontres avec le public, il y a des rencontres avec d'autres éditeurs, avec les organisateurs aussi, ça peut être très sympa. J'attends une belle journée ensoleillée et conviviale. Hein. Après, est-ce qu'il y aura des ventes, ça je ne sais pas. Est-ce que ce qui se passera, je ne sais pas. Et sinon, pour être éditeur, il faut vraiment avoir une passion toujours intacte. Je pense que c'est ça qui est important. Il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir la passion des livres et de la littérature.
Philippe Salus, merci beaucoup.
De rien.
Et puis on vous retrouve donc le dimanche 19 mai à la fête du livre. Dans Impossible Sinaï, Max Aube rend compte de la guerre des six jours entre Israël et ses voisins arabes. À travers la fiction littéraire de manuscrits trouvés, il exprime la variété des points de vue sur cette guerre. Impossible Sinaï est publié aux éditions Mare Nostrum. Extrait.
Quand l'homme dit « doux », il sait de quoi il parle. Quand l'homme dit « sel », il sait de quoi il parle. Quand l'homme dit « verge », il sait de quoi il parle. Quand l'homme dit « Dieu », il sait de quoi il parle. Mais lorsqu'il dit « mort », personne n'en sait rien. Et elle est derrière et devant. Chanson anonyme palestinienne. Je ne suis ni arabe ni juif, je suis palestinien. Que pas un n'en réchappe. J'ai vécu au désert, ici je dois mourir. Que pas un n'en réchappe. Notre est le désert. Notre, la terre et le ciel désert. Que pas un n'en réchappe. Ici j'ai vécu, ici je dois mourir. Que pas un n'en réchappe. Pour faire des squelettes, ces juifs blonds font l'affaire. Bien superposés. Plutôt beaucoup que peu. Que pas un n'en réchappe. Que pas un n'en réchappe. Je ne crois pas en Allah. Je ne crois en rien. Mais le désert est nôtre. Je ne suis ni arabe, ni juif. Je suis palestinien. Que pas un n'en réchappe. Cette terre suinte le sang. Aucune dans le monde n'en a tant absorbé. Elle vint en Makedo. Mais eut assez de sang pour convertir la terre en poussière rouge entre Eila et Aqaba. Et alors qu'aujourd'hui, nous n'en avons pas plus, au lieu d'eau, nous avons plus de sang. Bleu est la mer rouge, rouge est le ciel bleu, verte est la haine. Mais si tu regardes le vert pendant longtemps, rouge il t'apparaît, rouge.
Je suis revenu voir une barman, j'avais connu 20 ans plus tôt. À la terrasse d'une migraine, assis dans un verre de Porto. Je suis repassé finir mon glace. Les regrets, ça le bras long. Les amoureux, il faut que ça refasse. Toujours leur chemin de croire que l'on. Quel con a dit, y'a rien qui se passe. La barman est devenue patronne, elle écoute des radios libres qui libèrent des chansons connes pour trois touristes à la dérive. Elle a un mouflet qui me grimace. C'est effrayant comme il ressemble au représentant en bout de glace qui pensait prendre les commandes. Quel con a dit, y a rien qui se passe. L'hôtel est toujours sans étoiles, mais les nappes sont en tissu. Les serviettes aussi, ces pots de balle pour écrire des chansons dessus. Y a plus de sandwich que des frites grasses. Un plat du jour à 2 euros. Un bordeaux plutôt dégueulasse entre poire et le livaro. Quel con a dit, y a rien qui se passe. Le vent a dépeint des peintures, des tables et des chaises en fer. Ici, y a trois couleurs qui durent, c'est le vert et le vert. Ici, la marée reste en place et les eaux restent entre deux eaux. Des noyés remontent à la surface pour choper le cul des bateaux. Quel con a dit, y a rien qui se passe. La vie est pas chiche en pourboire quand le cœur fait des extras de chagrin. Tant pis, je vais au bout du comptoir, je prends la piste de 421. Je jette des 3D pour la classe. Je fais un 4, je fais un 2. Au troisième coup, je claque un as. Je ris, je paie, je sors, adieu. Quel con a dit, y'a rien qui se passe.
Pierrette Champon est professeure certifiée de lettres modernes en retraite. Elle a passé la moitié de sa carrière en Tunisie et en Côte d'Ivoire, et le reste de sa carrière dans le département du Rhône. Poète et romancière, elle est l'initiatrice du Salon du Livre de Réquista. Elle organise depuis 20 ans un prix de poésie. Elle a publié plusieurs romans. Son dernier ouvrage s'intitule « Des vies parallèles ». Tous ses livres sont publiés aux éditions Brumerge. Extrait de Croxibi à la Terre, l'histoire d'un jeune cinéphile qui se trouve malgré lui embarqué dans une étrange aventure, si bien qu'il ne sait plus très bien où se trouve la limite entre le passé, le présent et le futur. L'auteur a mêlé au texte plus de 400 titres de films que les cinéphiles s'amuseront à retrouver.
J'ignorais, en commençant cette journée, que j'allais vivre une incroyable aventure. Calé dans un fauteuil confortable, je regardais un film sur l'écran d'un antique téléviseur, tel qu'on n'en voit plus depuis longtemps, mais que mes parents ont conservé en souvenir d'une époque révolue. Il s'agissait du voyage extraordinaire de Samy. J'étais seule à la maison après avoir pris le petit déjeuner. Bientôt, la rentrée des classes arrivait, et je m'octroyais un peu de bon temps les derniers jours de congé. Mais je me présente. Coucou, c'est moi, Croque Simon. Vous ne me connaissez pas encore, mais cela ne va plus tarder. Je suis née il y a des jours et des lunes à Ibixorc, un charmant village dans la vallée des fleurs, près de la colline aux coquelicots, sur la planète Croxibi, du système Alcinor. La maison près du lac, le lac des Cygnes où évoluent majestueusement les palmipèdes en chassant les vilains petits canards, jouit d'une situation privilégiée. Les peupliers, transformés en chandelles géantes au premier jour de l'automne, se reflètent dans le miroir des eaux ainsi que les roseaux sauvages. La petite maison dans la prairie ne fait pas d'envieux, car la plupart des habitants en possèdent une semblable. Normalement constituée, de taille moyenne, le poil blond, les yeux clairs, les ailes du nez parsemées de taches de sang qui me donnent un air espiègle, j'ai fait la joie de mes parents. On dit que j'ai une drôle de frimousse et beaucoup de malice. Dans un si beau visage, c'est dommage. Comme la plupart de mes copains, j'ai suivi l'itinéraire d'un enfant gâté, choyé par ma famille et ne me refusant rien, afin que je trouve plus belle la vie. Côté moral, en ayant fait souvent les 400 coups, je ne suis pas ce qu'on peut appeler un mauvais garçon. J'ai joué avec le vieux fusil, le grand couteau, bravant l'interdiction de mon père qui m'a fait comprendre, en trois petits mots, que je devais me calmer. À 2 ans, j'ai couru pieds nus dans le parc, sauté dans la piscine sans bouée au risque de me noyer, j'en passe, et des meilleurs. Bien souvent, ma mère, la femme modèle, se tape la tête contre les murs en découvrant une nouvelle bêtise. Et je ne peux pas dire « c'est pas moi, c'est lui !» car je suis fils unique. C'est ma chance. Ma mère crie « je vais craquer, c'est l'enfant du diable !» et j'évite de justesse un coup de parapluie. Elle ne peut retenir ses hurlements, me lance des mots désagréables qu'elle regrette à l'instant même. « Comment, moi, moche et méchant ? On va voir !»« Embrasse-moi, idiot ! Et surtout, ne prends pas la mouche !» répond-elle en me serrant dans ses bras. Elle fait beaucoup de bruit pour rien avant le grand pardon. Je me console, sachant qu'on absout tant que l'on aime et que le vrai plaisir de la discorde, c'est la réconciliation. Je reste pour elle le bon fils, malgré mes incartades, l'incompris qui prend le mauvais chemin. De toute manière, il n'y a point de fourré sans arbre tordu. De même qu'on ne choisit pas sa famille, une mère ne choisit pas son enfant et le prend tel qu'il est en lui disant « Bienvenue parmi nous, tu seras mon fils » quand on le lui pose entre les bras. Côté distraction, je suis fervent cinéphile et j'aime l'aventure.
L'association Arts et Livres vous présente la fête du livre en Quai de Sorgue.
Interviews et lectures de textes sur Radio Saint-Aff.
La fête du livre en Quai de Sorgue, c'est dimanche. À partir de 10h.